Peut-être, mais dans ma tête, il n'y a pas tellement de grand écart entre ces gens-là. Moi, c'est tous des gens qui ont d'abord une qualité d'écriture exceptionnelle. J'ai fait Sarclo, j'ai fait Manu de Renault, j'ai fait Springsteen, Saez. Pour moi, c'est quand même l'écriture qui compte d'abord. Je suis d'abord touché par un texte, dans les chansons. C'est pour ça qu'en fait, il y a, à mon avis, un point commun entre tous ces gens-là, même si entre Sarclo et Springsteen, c'est vrai qu'il y a pas mal de différences aussi.
Et pour vous, Michael Verruchou, les textes de Thiéphaine, mais aussi de Mansay et de Dylan, la poésie, c'est ce qui vous touche le plus dans une chanson ?
La poésie et la mélodie, ce n'est pas que des poètes. Si on prend un Bob Dylan, je pense que beaucoup de gens parlent de poètes chantants qui chantent mal avec ses trois accords de guitare. Écoutez le phrasé des chansons de Bob Dylan. Personne ne chante des phrases comme ça. C'est vraiment un interprète oral. Il y a une oralité fabuleuse. Et moi, je prétends haut et fort que Bob Dylan est un meilleur chanteur que Céline Dion.
Ah, moi, je vous rejoins.
Moi, j'ai juste une question. Qui signe le texte consacré à Elvis Presley, Love Me Tender ?
Sébastien Gabriel.
Parce qu'il n'est pas signé, non ?
Si.
Ah, juste.
Il y a peut-être une coquille alors là-dessus.
Il y a peut-être une coquille, c'est pas possible. Bastien Gabriel, qui sera samedi à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Payot, à partir de 15h, pour dédicacer ce livre. Il le fera en musique, lui, et quelques auteurs seront là également. Moi, ce qui me frappe aussi dans ce livre et dans le choix des différentes chansons, j'ai l'impression que ces chansons, elles sont liées à des souvenirs d'adolescence, souvent le moment où on commence vraiment à découvrir la musique par soi-même. La plus belle chanson, finalement, c'est un petit peu celle de la nostalgie, celle qui rappelle une époque qui n'est plus.
C'est quelque chose qui nous a surpris, nous aussi, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. On a lancé ça sans avoir cette idée en tête, et on s'est rendu compte que les gens, spontanément, parlaient des chansons qui les ont marquées dans leur jeunesse, et dans leur enfance, dans leur adolescence. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une période où on est beaucoup plus marqué par ce qu'on écoute. Il y a des chansons qui, à ce moment-là, peuvent vous changer la vie, vraiment. Ce qui est peut-être tout à fait possible plus tard.
Donc ça fait qu'on peut accepter Pandi Panda dans la catégorie des plus belles chansons du monde.
Alors Pandi Panda, c'est pas de la nostalgie d'enfance. Là, c'est l'histoire d'un papa face au colique de sa fille. Et la seule chanson qui arrive à calmer la petite et à la faire dormir, c'est Pandi Panda. Donc je pense que dans ce genre de situation, au bout d'un moment, on peut prétendre que Pandi Panda devient une chanson salvatrice. Du moins, parce qu'on a eu un doute quand on a reçu ce texte, en disant on n'avait pas du tout envie d'entrer dans un deuxième degré ou dans un jeu « J'aime le lundi au soleil » de Claude François, mais en fait, c'est pas vrai. On voulait vraiment quelque chose de sincère. Et puis, en lisant le texte, la sincérité, elle était là, donc on a pris Pandi Panda.
Mais c'est vrai que le côté nostalgie, adolescence, enfance, c'est aussi qu'on s'est rendu compte à quel point les chansons sont... À quel point une chanson peut marquer quelqu'un. Enfin, il y a des choses qui sont très fortes dans certains textes sur l'anorexie, sur les problèmes familiaux et tout ça. Et ça reste lié à des chansons. Enfin, il y a quelque chose quand même dans la chanson qui est assez magique.
Finalement, ces chansons, elles ont le même effet que ces goûts de l'enfance, le gâteau qu'on allait goûter
la
chez la grand-mère.
Mais je pense qu'on se trimballe tous une bande-son. Il y a une bande-son à nos vies. Quand on se revoit, quand on s'imagine tout à coup... Une chanson, ça révèle effectivement ses parfums. Il y a ce côté très très fort, très très enfoui, et c'est ça qui fait leur beauté.
Vous parlez de chansons qui changent la vie. Est-ce que pour vous deux, il y a une chanson qui a changé votre vie à un moment donné, qui vous a fait partir dans une direction différente, qui vous a fait faire des rencontres peut-être ?
Alors moi, clairement, j'ai défendu la chanson Manu de Renaud, mais en fait c'est tout Renaud qui a clairement changé ma vie. Enfin, j'ai découvert ça à l'adolescence, j'avais 13, 12, 13, 14 ans. J'étais devenu complètement fan de Renaud et ça m'a ouvert à toute une dimension de la poésie qu'on n'apprenait pas forcément à l'école, à toute une dimension après de la littérature. J'ai fait des études de lettres et c'est certainement pas par hasard. Il y a quelque chose là, à partir de Renaud, qui s'est révélé, oui.
Et pour vous, Michael Verruchou ?
Alors moi, au même âge, j'ai pris Thiéphaine sur le coin de la gueule. Et puis c'est vrai que là aussi, je me suis dit, ouais, on peut faire ça, on peut écrire comme ça. Et moi, j'avais envie d'écrire, donc vraiment. Et finalement, je me dis que mes professeurs d'écriture n'ont pas forcément été des romanciers, mais plutôt des chanteurs, en voyant comment on peut jouer avec les adjectifs, comment on peut faire sonner les mots. Et oui, ça a été un grand choc.
Dans votre livre, il y a des artistes dont l'absence surprend. Il n'y a pas William Scheller, il n'y a pas les Beatles. Est-ce qu'il va falloir faire un deuxième volume ?
Alors le blog continue, c'est ouvert. Il y a des tas d'absents, mais il n'y a aucune volonté encyclopédique. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de liste d'auteurs. On a mis les chansons par ordre alphabétique, parce que c'est à chaque fois un rapport entre quelqu'un et une chanson. Mais il y a beaucoup de manques. Les Stones manquent aussi.
C'est vrai que nous, on a ouvert ça à tout le monde et spontanément, il y a plusieurs Brassens qui sont venus, plusieurs Ferré, plusieurs Brel. D'autres, Chalère n'est pas là, il aurait pu, mais c'est vraiment, comme c'est ouvert à tout le monde, c'est pas notre faute si certains ne sont pas là, ma foi.
Alors Jean-Michel, quelle chanson vous ajoutez au livre, vous ?
La chanson,
je le prends à froid là.
Je sais qu'il y a Mon Papa de Sarclo, mais il y a des chansons magnifiques, des chansons d'amour de Sarclo que je trouve extraordinaires aussi pour son utilisation du verbe. C'en est quelques-unes qui me viennent à l'esprit comme ça.
Et pour vous, Sarah ?
Norwegian Wood des Beatles.
Ah ben voilà, les Beatles seront présents. Et puis moi j'ajouterai à William Scheller, Un homme heureux, qui est quand même l'une des plus belles chansons du monde, et je ne vous laisserai pas dire le contraire, messieurs. Je ne laisserai jamais dire que ce n'est pas la plus belle chanson du monde. C'est donc le titre de ce livre qui est paru aux éditions Cousu-Mouche. On mettra évidemment toutes les coordonnées sur le blog de Format A3, avec le lien vers le blog de la plus belle chanson du monde. Et puis on rappelle que ce livre sera dédicacé samedi en musique à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Payot dès 15h. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin partager ces quelques moments avec nous.
Merci à vous.
Puis vous repartez en chantant ?
Toujours.
Toujours.
On écoute.
Nous pas, parce que sinon il va pleuvoir.
Et puis demain, dans le cadre justement de cette semaine fête de la musique, on va vous révéler, nous, quelles sont les chansons les plus inavouables qu'on écoute des fois un peu en cachette. Rendez-vous donc dès 6h sur nos antennes toute la journée. Tous les
le
trois.
Le meilleur du pire.
Ouais, le meilleur
dire.
Du pire, ça sera demain dans cette journée spéciale fête de la musique. Belle journée à toutes et à tous. À demain.
À demain. Au revoir.